mention enfant est pluriel. Sur le site internet, les parents qui ont besoin de souffler un peu sont mis en relation avec des bénévoles qui vont s'occuper de leur enfant quelques heures. Sonia Pareux, à l'initiative de cette plateforme, était notre invitée à 7h40. Elle cherche encore et toujours des bénévoles.
Je crois que dans ma mailing list, j'en ai 357, quelque chose comme ça. Alors évidemment, j'ai dû en perdre en cours de route, puisqu'il y en a, ça fait un certain moment qu'ils sont inscrits. Mais j'en récupère au fur et à mesure. Puis je sillonne pas mal les écoles du travail social, les écoles paramédicales. Et puis il y a aussi tous les collègues que je connais des États. Parce qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des professionnels. Ça va être une expérimentation sur 2024. Toute l'année, je vais devoir lancer des appels à bénévoles. En tout cas, plus on en aura, parce qu'ils vont en binôme à domicile, plus on pourra remplir les demandes, en fait. Hein. Plus on en... Ça va être l'offre et la demande aussi. Hein.
Sonia Pareux, qui est donc à l'initiative de cette plateforme, elle était notre invitée ce matin. Vous pouvez vous rendre sur andipause.fr et pour l'instant, 80 familles vont bénéficier de cette initiative. Le Tour Volleyball a son nouveau manager, c'est Franz Granvorka, ancien international français. Il succède à Pascal Foussard qui part en retraite après 43 ans passés dans le club. Les précisions sont sur notre site internet. Et puis, il suit les pas des plus grands tels que Richard Gasquet ou Rafael Nadal. Un petit tourangeau participe au tournoi de tennis. Les petits as à Tarbes, ça débute aujourd'hui. Il s'agit de Quentin Daudin, 13 ans, licencié au tennis club de Tours. Et les membres du pôle France de Poitiers, Quentin Daudin qui fait partie des 40 meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie. La classe à Dallas. Bon, par contre, on n'a pas le temps de Dallas aujourd'hui.
Non, franchement. Aujourd'hui, c'est plutôt du vent et des averses. Averses qui se déploient en ce moment, d'ailleurs, sur une bonne partie de la région tourangelle. Les nuages devraient commencer à quitter le ciel de Touraine en fin de matinée. Mais d'ici là, avant de retrouver les belles éclaircies de l'après-midi, eh bien, donc, ces averses. Et puis, du vent avant d'ouest à sud-ouest, assez fort d'ailleurs, avec des rafales jusqu'à 65 km/h localement. Moi aussi, du vent dans la bouche. Avec donc ce vent qui soufflera jusqu'au milieu d'après-midi, ensuite ça devrait s'atténuer. Les températures, 13 à 14 degrés, c'est assez dingue. Vendredi, par exemple, à 6h, on relevait moins 3 degrés à Tours. Ce matin, 10 degrés. Et cet après-midi, 13 à 14 degrés. Alors que vendredi, à la même heure, il y a 3 à 4 degrés. Donc à 10 degrés de plus. Et ça ne va pas s'arrêter. On va continuer comme ça tout au long de la semaine. On attend 13 degrés pour les maximales à Château-la-Vallière et Bourgueil. 14 degrés pour Luynes ou encore Saint-Branch. La nuit prochaine, ça sera également dans le positif. Hein. 6 à 7 degrés. Notez que les températures minimales dans la nuit de mardi et mercredi seront de 12 à 13 degrés. Donc en ce moment, c'est vraiment la grande douceur qui arrive. Espérons qu'il n'y a pas un retour du froid plus tard, en tout cas. Enfin, on verra bien. Merci Laura Pio.
Merci à vous.
L'info revient tout à l'heure à 10h sur France Bleu Touraine.
La météo 100% locale avec Propriétaires Solidaires, spécialiste en location de logements solidaires et avantages fiscaux. Conseil gratuit sur propriétairesolidaires.fr. Porté par Solia AIS Centre-Val de Loire.
La Touraine, c'est vous qui en parlez le mieux.
Alors moi j'aime bien aller me balader dans les vignes du côté de Vouvray, par ses mêlées, dans les hauteurs de Rochecorbon. Et après, si le temps vous le permet, vous avez 5 minutes, vous pouvez vous arrêter, faire une petite halte à la coopérative vinicole de Vouvray. Et du coup, vous visiterez la cave avec une petite histoire et vous terminerez par une petite dégustation.
France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici.
Vendredi 26 janvier, Michel Sardou est en concert au Parc des Expos de Tours. Et c'est complet. Enfin presque. France Bleu Touraine a les toutes dernières places, rien que pour vous. Gagnez ce cadeau exceptionnel ce mercredi entre 11h et midi dans le jeu à deux balles. Les deux derniers tickets pour le concert de Michel Sardou, c'est seulement sur France Bleu Touraine.
À votre service sur France Bleu Touraine avec Richard Mazoué.
Bienvenue à votre service. Nous démarrons la semaine avec les phobies. Votre phobie, quelle est-elle? Les araignées, les serpents, la peur du vide peut-être, ou de prendre l'avion? Comment luttez-vous contre votre phobie? Est-ce que vous savez comment vivre ça au quotidien? Comment ça vous empêche de vivre peut-être même sereinement? Une phobie, c'est jamais facile, c'est même parfois très handicapant. Vos témoignages ce matin au 02 47 38 10 ans. Et pour en parler, notre invité dans un instant, le professeur Vincent Camus, des psychiatres au CHU de Tours. Une phobie, c'est quoi exactement? Eh bien, réponse dans un instant. Et pour venir nous en parler, le 02 47 38 10 20. Tout de suite. Ici, un petit tour en Amérique avec Joe Dassin.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. l'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin, l'Amérique. Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je l'ai dans les yeux, que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Toutes les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je l'aurai.
L'Amérique, Joe Dassin sur France Bleu Touraine.
À votre service sur France Bleu Touraine.
Vous avez peur des araignées, du vide, de la foule, êtes-vous alors phobique? Est-ce que ça soigne d'ailleurs la phobie? Et si oui, comment? Comment vivez-vous votre phobie? Est-ce que ça vous empêche de vivre tranquillement, sereinement au quotidien? Comment luttez-vous contre votre phobie, si vous en avez? Vos témoignages, bien sûr, au 02 47 38 10 20, comme chaque matin, dans À votre service sur France Bleu Touraine, vous êtes les bienvenus. Professeur Vincent Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre au CHU de Tours. Une phobie, c'est quoi exactement? C'est une peur irraisonnée?
Oui, alors effectivement, on peut définir la phobie comme une réaction anxieuse, une réaction de peur, mais qui effectivement est une réaction de peur disproportionnée dans son intensité, dans sa durée, et également dans ses circonstances d'apparition, puisqu'en fait, ce qui va caractériser aussi la phobie, c'est une forme d'anticipation anxieuse ou de réaction anxieuse en l'absence de la situation ou de l'objet source de l'anxiété.
Donc on se projette, et c'est là que la peur, entre guillemets, arrive.
Exactement, et d'ailleurs c'est un des symptômes de la maladie phobie, du trouble anxieux phobique. C'est un de ces critères, c'est justement l'évitement des situations dans lesquelles on pourrait se retrouver confronté, soit à la situation, soit à l'objet. On a l'habitude de différencier deux types de maladies phobiques, deux types de phobies, des phobies d'objets, et souvent les personnes qui souffrent d'un trouble phobique avéré, ils peuvent avoir une phobie pour un objet très spécifique, vous l'avez évoqué dans l'introduction, ça peut être la peur d'un animal, alors souvent c'est les oiseaux, les araignées, voilà, mais ça peut être aussi des phobies, non pas d'objets, mais de situations, et la plus fréquente et la plus courante, et aussi probablement la plus handicapante, est ce qu'on appelle la phobie sociale, qui se caractérise par notamment des grandes difficultés à pouvoir prendre la parole en public, par exemple.
L'agoraphobie aussi
Alors, l'agoraphobie, c'est un peu différent. C'est effectivement la peur de se retrouver soit dans des grands espaces vides, soit dans des espaces où il y a beaucoup de monde. Et soit l'exposition à des situations comme celle-là, soit même l'anticipation et l'imagination de se retrouver dans cette situation déclenche une réaction anxieuse aiguë qu'on appelle en fait une attaque de panique.
Alors, on m'a dit tout à l'heure, par exemple, que moi je pensais être phobie par rapport au serpent, mais dis non, ça c'est pas une phobie.
En fait, si vous vous retrouvez en face à face avec un serpent extrêmement dangereux, en fait, la réaction de peur est plutôt une réaction appropriée. D'ailleurs, on pourrait dire que si on a une approche, on pourrait dire développementale, le fait d'avoir, pour l'espèce humaine et même pour les mammifères en fait, acquis cette capacité de réaction par la peur, c'est plutôt quelque chose qui est au service de la survie de l'espèce. Si on n'avait pas accès au registre de la peur, eh bien, on s'exposerait au danger de manière continue et on aurait une survie extrêmement limitée. C'est parce que est inscrit en nous et a été appris d'ailleurs la peur des situations dangereuses ou des animaux dangereux ou des objets dangereux que effectivement leur exposition peut susciter une réaction de peur et la réaction de peur est en fait le préalable à l'action. Alors l'action qui peut être soit de fuir, hein, soit de se confronter, hein, donc le crotal en face de vous, ben, soit
je voilà,
vous le prenez par le cou et puis non, vous tordez le cou, soit fuis. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez en courant.
Et donc alors, on peut dire que la peur du serpent, à la limite, elle, presque, c'est de la sauvegarde en quelque sorte, alors que l'araignée c'est plutôt de la phobie, parce que c'est pas, sauf si on tombe sur une grosse migale chez soi.
Mais... C'est un peu différent, enfin, en fait, non, je pense que la peur de l'araignée, elle naît aussi pas seulement de la réalité du danger de l'objet, en fait, que représente l'objet, mais aussi des représentations qui nous sont transmises culturellement, socialement. Donc là, évidemment, dans nos cultures, on a plutôt une représentation de l'araignée assez négative, dangereuse, sale, etc. Et c'est probablement en partie ce qui peut induire aussi des peurs disproportionnées et irraisonnées de certains objets.
On va continuer d'en parler avec vous, professeur Vincent Camus, des phobies ce matin. On verra aussi la différence réelle entre la phobie, l'anxiété, la peur. Tout ça, ce sont des choses différentes. Est-ce que ça se soigne d'ailleurs, la phobie? C'est ce que nous verrons avec vous, professeur Camus. Et puis, si vous voulez nous rejoindre pour nous parler un petit peu de votre phobie, quelle est-elle? Peut-être la phobie des araignées, on en a parlé, mais ça peut être autre chose. L'avion également, en général, ça peut créer une situation très handicapante pour partir en vacances, entre autres. Comment luttez-vous contre votre phobie au quotidien? Votre témoignage au 02 47 38 10 20. Nous nous retrouvons après Zao de Sagazan.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, des tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la lumière. symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs, Zao de Zagazan sur France Bleu Touraine.
À votre service sur France Bleu Touraine avec Richard Mazoué.
Les phobies dans votre service, ce matin nous en parlons. Est-ce que vous avez une phobie particulière? Comment est-ce que vous luttez au quotidien contre votre phobie? Car ça peut être très handicapant, effectivement. Pour en parler avec nous et avec vous, le professeur Vincent Camus, psychiatre CHU de Tours. Je reviens sur la chanson de Zagazan, sur les éclairs. Est-ce qu'on peut avoir une phobie des orages, par exemple? La peur des éclairs, c'est quelque chose d'un peu atavique aussi, non, mais...
On peut avoir peur de l'orage, c'est assez logique en fait.
Parce encore, on retrouve c'est la peur plus qu'autre chose.
Voilà, tout à fait.
Le danger.
Le déchaînement des éléments de la nature peuvent être tout à fait impressionnants et susciter des réactions de peur qui me paraissent tout à fait adaptées en fait. C'est pas tellement des... On va pas parler de phobie de l'orage, c'est pas des choses qu'on rencontre dans la pratique quotidienne. Ce qu'on rencontre dans la pratique des soins psychiatriques ou psychologiques au quotidien, c'est plutôt des phobies d'objets simples, ou les phobies sociales. On pourrait aussi parler de la phobie scolaire, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui concerne plus les enfants, qui est une forme un peu plus particulière de phobie. Mais c'est essentiellement ça. Les autres sont plus anecdotiques, on pourrait dire.
Donc, en ce qui concerne la phobie, justement, est-ce qu'on peut devenir phobique à tout âge, ou est-ce qu'on est phobique ou pas ou...
Alors, non, probablement pas. Comme toujours en matière de pathologie mentale ou de pathologie psychiatrique, bien sûr, il y a des facteurs de vulnérabilité, notamment biologiques, génétiques. On n'est pas tous, je dirais, armés de la même façon sur le plan biologique pour faire face, je dirais, aux facteurs de stress. Et donc, on peut avoir un seuil de sensibilité aux réactions anxieuses qui est plus ou moins bas en fonction de notre bagage biologique et génétique. Mais globalement, typiquement, la pathologie phobique est vraiment, on pourrait dire, une pathologie de l'apprentissage de la situation, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui sert de base aussi de la stratégie de prise en charge et d'intervention en psychothérapie. Puisque l'idée est que, pour comprendre la maladie phobique, c'est de considérer que la réaction phobique, elle est en fait une réaction en excès d'une anxiété qui est par ailleurs physiologique ou normale. Et donc, avoir développé une propension à une réaction en excès est probablement un effet, effectivement, d'apprentissage social ou d'exposition antérieure. Voilà.
Sylvie de Chinon est avec nous. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous avez une phobie particulière?
Ah oui, très particulière. Je suis complètement phobique des quatre voies et des camions. Et notamment des camions sur les quatre voies. Donc je ne peux absolument pas prendre des quatre voies.
D'accord.
Oui. Alors, effectivement, alors, il y a un point qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est de faire la distinction entre les phobies et d'autres troubles anxieux qui peuvent être des troubles de type post-traumatique. J'évoquais tout à l'heure le caractère un peu appris de la phobie. Alors, dans la situation de Sylvie ici, je ne sais pas si elle s'est retrouvée une fois et si elle a un souvenir quasi traumatique d'une situation de danger dans lequel elle se serait retrouvée sur une autoroute à quatre voies ou avec un poids lourd. Mais c'est peut-être une distinction qu'il faut faire entre quelque chose qui relèverait d'une expérience traumatique et quelque chose qui relèverait d'une vraie pathologie phobique, en fait.
Sylvie, ça a été votre cas ou pas?
Alors, j'ai essayé de réfléchir à la question, hein, parce que c'était quand même assez handicapant. Et en fait, effectivement, je me suis rappelé que quand j'étais jeune, sur l'autoroute qui mène de Tours à Orléans, il y avait eu un très très grave accident au niveau de Château-Renaud, avec impliquant plusieurs voitures et des camions, mais j'étais sur l'autre voie.
Oui, mais du coup, on peut peut-être imaginer. Bah, je veux pas.
Ça marche.
Enfin, je veux pas trop développer sur une situation individuelle ici, mais c'est bien sûr, je me risquerai pas à des diagnostics à la radio. Mais en tout cas, votre question pose bien justement la question de la différence en fait entre des symptômes qui pourraient peut-être relever d'une problématique post-traumatique. Vous avez un souvenir d'une situation potentiellement traumatique, c'est pas seulement on considère comme traumatique une situation pas seulement dans laquelle vous avez été impliqué personnellement et mis en danger personnellement, mais dont vous avez pu être témoin. C'est aussi un peu une des définitions de l'exposition traumatique. Et du coup, on considérerait que la peur qui pourrait résulter d'une situation comme celle-là pourrait être autant d'origine post-traumatique que réellement de type phobique, en fait.
Ouais, parce que c'est venu bien après, hein, quand même. Ça. C'est pour ça, c'est en réfléchissant à ça, pourquoi ça me faisait un tel effet, que j'essayais de rechercher pourquoi ça me faisait ça, quoi. Et bon, là, ça remontait quand même à beaucoup d'années en avance. Hein,
oui. Ah, sans pouvoir parler spécifiquement de votre situation personnelle, évidemment c'est compliqué comme ça, mais en tout cas, d'une manière générale, les réactions anxieuses post-exposition à un événement traumatique peuvent se manifester bien longtemps après l'exposition. En fait, c'est d'ailleurs un des critères de définition aussi du trouble de stress post-traumatique. Je ne dis pas d'ailleurs que ce que vous présentez relève d'un trouble de stress post-traumatique, mais peut trouver son origine dans une exposition à un événement traumatique. Et souvent, la clinique disons qui émerge après une exposition traumatique est une clinique différée. Il y a, en cas d'exposition à un stress majeur, il peut y avoir une clinique péritraumatique, l'anxiété, la dissociation, etc. Et puis des symptômes qui vont se développer à distance avec une période intermédiaire sans trop de symptômes d'ailleurs, qu'on appelle un peu un intervalle libre. Et le fait que les symptômes surviennent après, bien à distance, n'exclut pas le lien avec une exposition à un événement traumatique.
Tout à fait.
Si.
Comment on fait pour s'en sortir?
Ah, ouais, ça, on va l'aborder dans un instant. Merci, oui. Au quotidien, ça ne va pas être facile. Et est-ce que justement, il n'y a pas aussi le côté, on se moque un peu de vous en disant, mais c'est rien, ça.
Ouais. Complètement, oui, bien sûr.
Oui, alors ça, c'est un point qui est très important, et je crois qu'il concerne aussi toutes les pathologies mentales au sens large. C'est vrai aussi pour la dépression, c'est vrai. Et c'est d'où l'importance aussi de faire des émissions comme celle-ci, de sensibilisation, d'information sur les pathologies mentales, puisque comme elles sont mal connues, souvent les personnes qui en souffrent sont considérées comme des personnes un peu coupables de ce qui leur arrive et qui ne devraient pas se plaindre et il suffit de faire des efforts et puis tout va passer. En fait, on sait bien que les personnes qui souffrent d'une maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit un trouble anxieux ou un trouble dépressif, leur dire fais un petit effort et ça va aller mieux, ça les aide pas.
C'est même plutôt l'inverse. Sylvie, on va en parler justement avec le professeur Camille dans un instant. Comment est-ce qu'on peut aider à sortir d'une anxiété comme la vôtre, par exemple, à d'une phobie aussi. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage.
Merci beaucoup.
Et puis bonne continuation et surtout bon courage pour la suite.
Merci,
Sylvie. C'est comme Sylvie, vous voulez intervenir, si vous voulez parler de votre grande anxiété, on l'a vu, la phobie des camions et des autoroutes, c'est assez étonnant, mais on l'a vu un petit peu pourquoi. Si vous voulez nous en parler de votre phobie, comment est-ce que vous luttez, est-ce qu'on vivait au quotidien avec cette phobie, cette anxiété, eh bien n'hésitez pas à nous retrouver au 02 47 38 10 1, nous nous retrouvons juste après Billy Joel.
Yeah.
Hop Top Girl, Billy Joel sur France Bleu Touraine. Ce matin dans votre service, les phobies. Avez-vous une phobie particulière? Peut-être la peur du vide, peut-être le prendre l'avion, les araignées, les serpents, etc. Retrouvez-nous comme Sylvie il y a quelques instants pour votre témoignage. 02 47 38 10 20. Nous en parlons de vos phobies juste après ceci.
Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche. Contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi, faites un leg à l'Institut du cerveau.
Demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr.
Choisir un métier des services de l'auto, de la moto, du camion ou du vélo, c'est choisir d'aider les autres au quotidien.
Là, j'entretiens la voiture d'une infirmière.
Moi, je redémarre la machine d'un passionné.
Et moi, je vends un moyen de transport qui facilite la ville.
Du 27 janvier au 3 février, c'est la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. 500 événements organisés partout en France et une occasion unique de découvrir plus d'une centaine de métiers utiles et qui recrutent. Rendez-vous sur semaineserviceauto.com.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise. Vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté. Mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous. Si on sait assurer votre auto, votre domicile, votre famille, nos conseillers sauront aussi vous proposer des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui. En plus, en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous.
Chez vous.
France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici.
À votre service sur France Bleu Touraine avec Richard Mazoué.
Et nous parlons ce matin de phobie. Est-ce que vous avez une phobie particulière qui vous handicape peut-être au quotidien? Alors on parle souvent des araignées, mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses. La peur du vide par exemple, ou de prendre l'avion, ou encore des serpents, etc. On l'a vu il y a quelques instants en compagnie du professeur Vincent Camus, psychiatre au CHU de Tours. Si comme Sylvie qui nous a apporté son témoignage, vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus au 02 47 38 10 ans pour voir un peu comment vous vivez justement cette phobie. C'est pas forcément facile tous les jours. Alors les premiers symptômes d'une phobie, professeur Camus, ça arrive comment? On s'en rend compte du jour au lendemain, ou est-ce que ça vient progressivement?
Non, alors justement, pour parler de phobie maladie, on pourrait dire trouble anxieux caractérisé, le type phobique, hein, il faut que les symptômes soient présents déjà sur une durée suffisamment longue. Donc nos critères diagnostiques habituels parlent de durée supérieure à 6 mois, par exemple. Et par ailleurs, c'est aussi un des critères de définition et de diagnostic. Il faut vraiment que les symptômes aient un impact fonctionnel significatif dans la vie quotidienne des personnes. Ce qui permet de distinguer du coup, disons, l'anxiété assez normale au trouble anxieux caractérisé, au trouble phobique. Donc ça, c'est le premier élément. Les choses s'installent dans la durée et les personnes vont commencer à être gênées dans leur vie quotidienne. Par exemple, effectivement, si vous avez une phobie de l'avion et que voilà, vous êtes amené à, pour des raisons professionnelles, par exemple, à prendre souvent l'avion pour des déplacements, ben vous allez avoir
c'est handicapant pour le coup, là.
Vous allez avoir un niveau de handicap, un handicap fonctionnel qui est très très important. On va mesurer aussi la sévérité de la pathologie à l'intensité des symptômes. Et là, quand on dit avoir peur, c'est vraiment des réactions physique, hein, de crise de panique durable et répétée, soit à l'exposition à la situation ou à l'objet, soit même au fait de s'imaginer dans la situation d'être exposé, en fait. Donc ça, c'est vraiment des éléments pour le diagnostic qui sont très importants.
Mais alors, professeur Camus, moi j'ai vu quelqu'un, et ça c'est vrai, j'ai assisté à la scène, une amie qui, devant une araignée ridiculement petite, était tétanisée. Quand je dis tétanisée, c'est assez bien hurler, ensuite elle pouvait même plus bouger. Donc là, on est dans la phobie, là.
Alors, justement, je peux pas répondre, mais si effectivement elle a ce type de réaction répétée, intense, durable et depuis longtemps, on retrouverait ici tous les critères d'une phobie des insectes. Alors, en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que même si aussi, je dirais, pour comprendre un petit peu la maladie phobique, on aime bien prendre un exemple d'une phobie très particulière. Souvent, les gens qui souffrent d'un trouble phobique, il n'y a pas qu'une situation ou qu'un objet dans lesquels ils sont devant lequel ils sont très, très inconfortables et ils développent des symptômes anxieux.
La claustrophobie, par exemple ?
La claustrophobie, ouais. c'est effectivement le fait des espaces clos, qui se rapprochent aussi, finalement, de l'agoraphobie, qui peut être la crainte de se retrouver dans des espaces, soit avec plein de monde, soit complètement vide. Mais souvent, c'est souvent une stratégie qu'on utilise justement pour le traitement. Le traitement des troubles phobiques, c'est essentiellement des approches de psychothérapie, dont le principe est extrêmement simple. En fait, c'est ce qu'on appelle des thérapies d'exposition. C'est-à-dire, l'idée est de désapprendre la peur de l'objet ou de la situation. Et comment on fait ça ? Eh bien, surtout en aidant les personnes à éteindre la réaction émotionnelle intense, l'attaque de panique ou les symptômes anxieux, à l'exposition, à la situation ou à l'objet. Alors, on a plusieurs façons d'exposer les personnes dans un cadre de psychothérapie bien structuré. Soit on le fait en imagination. On met les personnes, par exemple, dans un exercice de relaxation et on leur dit, bah là, maintenant, vous allez commencer à penser que vous êtes en face de...
Prenons l'exemple de Sylvie tout à l'heure.
Par exemple, vous prenez la bretelle d'autoroute, voilà. Et à ce moment-là, comme la personne est en exercice de relaxation, en fait, elle va par elle-même éteindre en fait l'intensité de la réaction émotionnelle que suscite l'imagination de l'exposition. Et souvent dans les stratégies de prise en charge des phobies, on fait souvent classer en fait les situations les plus anxiogènes, des moins anxiogènes aux plus anxiogènes. Et dans un protocole de désensibilisation en imagination, on va commencer par travailler sur les situations les moins anxiogènes. Quand la personne finalement se rend compte que en imagination elle a plus de réaction de stress, voire même dans la réalité elle a plus de réaction de stress, et ben on passe à la situation qu'elle a classée juste au-dessus comme étant voilà, et on termine bien sûr par la situation la plus anxiogène. Ça on peut le faire, je dirais, en psychothérapie avec des exercices de relaxation, des expositions en imagination. On peut le faire maintenant aussi en réalité virtuelle, en fait. On a maintenant des protocoles et des dispositifs qui nous permettent de faire de l'exposition plus en imagination, mais vraiment en réalité virtuelle.
Pour la peur du vide, par exemple.
Alors, pour la peur du vide, comme pour la peur des grands espaces, comme pour la peur de l'avion, évidemment, le virtuel rend possible, je dirais, la récréation de l'ensemble des situations possibles et imaginables. Et puis, la dernière stratégie, qui pourrait paraître plus brutale, mais qui peut se faire, en fait, qui est ce qu'on appelle le flooding, l'immersion, c'est-à-dire l'exposition brutale d'emblée à la situation la plus anxiogène, mais évidemment, là, avec le thérapeute à côté, qui va, et après avoir déjà bien travaillé sur, je dirais, ses capacités à éteindre les réactions anxieuses trop importantes, etc. Mais le principe, c'est celui-là, c'est vraiment celui de se confronter, de désensibilisation.
En immersion.
Voilà, absolument.
On va continuer d'en parler dans la suite et la fin déjà de ce rendez-vous à votre service consacré ce matin aux phobies. Si vous avez une phobie et vous voulez venir nous en parler, vous êtes les bienvenus évidemment au 02 47 38 10 1. C'est comme Sylvie tout à l'heure qui nous a porté son témoignage étonnant d'ailleurs. 02 47 38 10 1. On se retrouve juste après ce duo, Marc Lavoine et Catherine Ringer. Le soleil déjà lève de moi.
soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras, dans mes bras. Je me sens pas belle. Quand tu penses à moi. Le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi.
Est-ce que t'es belle, Marc Lavoine et Catherine Ringer d'Erita Mitsuko sur France Bleu Touraine. Il est 10h20, la suite et la fin de ce rendez-vous à votre service en compagnie du professeur Vincent Camus. Nous parlons ce matin des phobies. Vous êtes, je rappelle, professeur Camus, psychiatre au CHU de Tours. Françoise de Montrichard est avec nous. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, votre fils a une phobie particulière.
Les piqûres.
Les piqûres d'insectes ou les piqûres de...
Non, les piqûres médicales, enfin, oui. Parce que, comme je disais, très jeune, il avait une dizaine d'années, il a été accidenté à un œil. Très gravement, il a été opéré à plusieurs reprises à Tours, c'était les Dames Blanches à l'époque. Et donc, il a subi X piqûres, X interventions. Et en fait, il a perdu son œil, hein, bon, à l'époque. Oui, c'était dans les années 80, quelque chose comme ça. Voilà, et donc, il peut pas, les piqûres, il fait même pas, et pourtant je le relance, hein, les piqûres, anti-tétanique, tout ça, non, il peut pas.
Des vaccins?
Oui, les vaccins. Ouais. Comme pour le Covid, c'était une histoire pas possible. Oh là là, il a fait une crise de démence. Ouais. Vraiment, et incontrôlable. Ouais.
Et il a consulté déjà pour ça ou pas?
Non.
Pas du tout, hein. Professeur Camus?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre assez fréquemment. On le voit beaucoup aussi dans les services de pédiatrie, par exemple. D'ailleurs, il y a un certain nombre de programmes d'intervention qui peuvent être mis en place pour justement proposer aux personnes qui ont ce type de phobie, qui ont des conséquences du coup graves, hein, parce que s'ils peuvent plus...
On l'a bien entendu, là.
Si on peut plus réaliser chez eux soit de prélèvement ou d'injection, etc., s'ils en ont besoin, ça peut devenir très critique pour leur santé. Et là, c'est typiquement des situations qui peuvent très bien répondre en fait à des formes de psychothérapie d'exposition en fait, c'est-à-dire que l'idée là, ça peut paraître contre-intuitif, hein, Françoise, mais la stratégie probablement dans une situation comme celle-là, ça serait de réexposer la personne à soit enfin une piqûre, enfin un prélèvement ou une injection, mais évidemment dans des circonstances très particulières, c'est-à-dire avec un accompagnement psychologique qui l'aide à dépasser ou à mieux contrôler la réaction de peur. Et peut-être qu'il y aurait une façon de le faire de manière progressive et puis de l'aider aussi à mieux contrôler ses symptômes d'anxiété. Mais c'est des situations, en fait, qui sont assez dramatiques et spectaculaires, mais qui répondent bien en fait à ce type de stratégie d'intervention.
Donc ça peut se, entre guillemets, se soigner. Hein, donc,
absolument.
Vous voyez, François, donc à la limite, rien n'est perdu entre guillemets. Il a 50 ans visiblement votre fils, donc rien n'est perdu. Donc alors, sur le parcours de soins, professeur, quand même, comment ça se passe si François se dit bon voilà, peut-être conseiller à son fils de faire un parcours de soins, comment ça se passe?
Alors bah, il faut consulter effectivement les services de psychiatrie. Alors les services de psychiatrie du service public, ils sont essentiellement dans le département rattaché aux hôpitaux généraux du CHU de Tours pour l'agglomération Tourangelle et puis aux hôpitaux d'Amboise, Château-Renaud et de Chinon pour les secteurs Est et Ouest. Ce qu'on demande aux personnes qui s'adressent à nos services de consultation, c'est d'être adressées par leur médecin traitant. Ça facilite et ça accélère l'accès en fait aux premières consultations.
On passe d'abord par son médecin généraliste.
Oui, c'est important parce que sinon, les premières demandes spontanées sont toujours possibles, mais du coup, elles demandent une réévaluation avant une première consultation médicale, et c'est toujours mieux quand le médecin traitant peut faire une demande argumentée. On essaye de s'organiser pour avoir des capacités de réponse un peu plus rapides, et les coordonnées des services ambulatoires de psychiatrie, on les retrouve sur le site du CHU, on peut téléphoner pour prendre des rendez-vous, et nos services, je dirais, de prise en charge ambulatoire ont l'habitude de prendre en charge des pathologies anxieuses de ce type, avec un suivi et médical et psychologique qui permet la mise en place de ce type de psychothérapie que j'évoquais tout à l'heure.
Merci Françoise pour votre témoignage. Donc n'hésitez pas, rien n'est perdu, comme le disait le professeur Camus, donc tout peut éventuellement s'arranger. Suivez bien les indications qui vous ont données. Merci Françoise. Et puis très rapidement, Jean-Michel d'Avoine. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour. Vous, c'est la phobie des avions?
Ouais, moi j'ai la phobie des avions, un truc de fou, quoi. Quand je vois les avions qui laissent des traînées blanches sur des millions de kilomètres dans le ciel, ça m'interpelle et ça me met dans un espèce de stress.
D'accord, donc c'est pas la phobie de prendre l'avion, c'est juste de voir ce qu'on appelle les chemtrails, donc ces fameuses traînées blanches.
Oui, ça renverrait plus à la notion de ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou de l'anxiété sur l'environnement. C'est un peu ça que j'entends dans votre question, Jean-Michel. C'est moins de développer une réaction de panique à l'idée de prendre un avion ou d'avoir développé une fois une crise de panique dans un avion, mais c'est plutôt l'inquiétude que vous avez, si j'ai bien compris, de voir les effets environnementaux des vols dans le ciel. Alors ça c'est un petit peu différent, on peut pas parler de phobie dans ces situations là mais plus d'une préoccupation assez légitime d'ailleurs sur les questions d'environnement. C'est vraiment des sujets d'actualité.
D'accord, donc pas une phobie, mais quand même c'est Jean-Michel, ça vous empêche quand même au quotidien, ça vous embête?
Ah, au quotidien ça m'embête, ouais, j'ai l'impression ça me prend dans la poitrine, vous avez appelé ça comment, des chemtrails?
Chemtrail, ouais. C'est le mot anglais pour ces traînées dans le ciel, voilà. Mais bon, on va dire des traînées blanches dans le ciel, c'est plus simple en français d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, on peut comprendre effectivement que ça puisse créer une certaine anxiété.
Oui, mais qu'il y ait une certaine anxiété sur les questions d'environnement dans la population générale. Comme on l'a dit tout à l'heure, la réaction anxieuse est le primat de l'action. Après tout, si collectivement on doit agir pour l'environnement, peut-être un des moteurs, c'est aussi d'avoir un certain niveau de crainte. Alors, faut pas qu'il y ait que de la crainte. Il faut qu'il y ait aussi des éléments de motivation autres, positifs.
Positifs, oui.
Toute la difficulté, bien sûr, de la mise en place des politiques d'adaptation au changement climatique. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je crois.
Non, dans l'occasion peut-être d'en reparler. Merci Jean-Michel, en tout cas, bon courage pour la suite, évidemment, donc pour essayer de passer au-delà de cette anxiété. Merci en tout cas de votre appel, Jean-Michel. Merci également, professeur Vincent Camus, d'avoir été avec nous. On rappelle que rien n'est perdu, donc on peut toujours se soigner.
Absolument.
Même si la phobie paraît difficile.
Il ne faut pas hésiter à recourir, au service de psychiatrie ou de soins en santé mentale, parce que
les mots font peur, les mots peuvent faire peur, mais
non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment passer l'information. Quand on a un problème cardiaque, on va voir un cardiologue. Quand on a un problème rhumatologique, on va voir un rhumatologue. Et quand on a un problème psychique, on va voir des équipes de santé mentale et de psychiatrie.
Et on va d'abord voir son médecin généraliste avant. Voilà, exactement. Vous êtes, je rappelle, le professeur Camus, psychiatre au CHU de Tours. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Touraine. Bonne journée. Au revoir.
Le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas. la même. C'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore.